at schools is taking away our freedoms, is taking away our liberties.
Senator Paul, you do not know what you are talking about.
I will carry my firearm in D.C. and in Congress.
I'm more than willing to go to jail if they want to put me in jail.
Melania, Ivanka, Poutine, Macron, Stormy Daniels, les confidences de la responsable de la communication de Trump, c'est dans la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde, bonjour si vous nous rejoignez depuis l'Amérique du Nord, bonsoir si vous êtes en Europe. J'ai vu passer des gens de la banlieue parisienne, de la Bourgogne, précisant bonsoir Francis, que mon vin préféré c'est le vin de Bourgogne, donc très heureux de retrouver. Bonsoir Nathalie, bonsoir Flore, bonsoir Michel d'Espagne, bonsoir Alain de Suisse. Bonsoir Thomas, tu as trop vite. Bonsoir Alexandra de Marseille, dis-moi, fan de l'OM comme toute la famille ici, Cody, Thomas et moi. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver dans un horaire très particulier, du moins un peu plus particulier que d'habitude, parce que comme je l'ai expliqué pour certains sur Twitter, vous avez changé d'heure en Europe, nous en Amérique du Nord pas encore, donc on est une heure plus tard au Québec et donc une heure plus tard à Las Vegas. Il est 13h, d'habitude je vous rejoins à midi, mais bon, ça va faire pareil. Donc merci, Alexandra est déjà passée, j'en parlais tout à l'heure, notre fan de l'OM habitué du stade Vélodrome qui est déjà passé via le super chat. Merci beaucoup Alexandra pour ta contribution, c'est très apprécié par toute l'équipe. L'équipe, est-ce que c'est encore besoin de la présenter? Mais bon, je vais le faire quand même, ça leur fait plaisir. Bonsoir Christophe de Bretagne. Donc l'équipe, nous avons comme d'habitude à l'animation du chat Cody, qui est aussi responsable de la recherche iconographique et qui prépare son anniversaire cette semaine, n'oubliez pas, le 4 novembre, je compte sur vous, allez vous inscrire sur son compte Twitter, il va le mettre dans le chat, il a besoin d'un petit peu d'aide, il a que 250 abonnés, ça serait sympa pour son anniversaire de monter un petit peu ça, je vous ferai un tweet pour vous rappeler tout ça sur mon propre compte Twitter, mais bon, ça serait sympa. Et puis, à la production et à la réalisation de cette émission, comme d'habitude, il y a Thomas, donc une émission 100% familiale. Donc avant de commencer, on a encore une fois une émission chargée qui sera peut-être un petit peu moins légère que ce que le prologue, mon prologue, laisse à croire, vous allez voir. Donc je voulais d'abord donc vous inciter à nouveau à vous abonner à la chaîne sur YouTube, si c'est pas encore le cas, faites-le, c'est vraiment important, cliquez sur la clochette, et puis après, allez like, en cliquant sur les pouces, ça nous permet d'avoir plus de visibilité et d'exister, donc merci, on compte sur vous, parlez de nous autour de vous, utilisez vos comptes Twitter, Facebook, sur les réseaux sociaux, partagez sur Facebook aussi, j'en parle pas souvent, et en plus c'est quelque chose qui me fait plaisir, parce que je ne suis pas à l'origine de tout ça, il y a une fanpage, La Chute sur Facebook, donc allez voir ça. Et puis on a notre page Utip où d'habitude, je dis d'habitude parce que je l'ai pas encore fait cette semaine, j'ai été submergé de travail, j'essaye. Alors, je vous cache pas qu'en ce moment c'est une période extrêmement compliquée où c'est très difficile d'avoir ce rendez-vous de la chute, mais si on le fait pas, ça nous manque, et puis je sais que vous êtes plusieurs à l'apprécier, mais en ce moment j'ai vraiment beaucoup de travail, et donc je n'ai pas encore eu le temps d'aller mettre à jour notre page Utip, je le ferai. Donc sur Utip, vous avez l'option complètement gratuitement de vous abonner et de suivre et d'avoir accès aux documents que j'ai utilisés pour préparer l'émission, d'aller plus loin que l'émission. N'hésitez pas à le faire. Quoi d'autre? Dominique demande, et la maman, elle est comme moi, le foot, l'OM, c'est pas son truc, mais amusez-vous les gars. C'est moyennement son truc, on va dire. Elle sait que lorsqu'il est question de l'OM, c'est pas qu'une question de foot, surtout pas ces dernières années où côté foot, c'est extrêmement moyen. C'est presque une question de religion. Mais bon. Donc aujourd'hui au programme, I will take your questions now. Je vais répondre à vos questions maintenant. Le livre de Stephanie Grisham. On en parlera en deuxième partie d'émission parce qu'avant on a pas mal de choses à voir parce qu'il s'est passé des choses qui sont moins amusantes que tout ça. Donc voilà, si tout le monde est prêt, si vous êtes prêt dans le chat, ouais, vous êtes prêt dans le chat, oui, voilà, tout le monde est là. Samuel est arrivé, salut, Thierry est arrivé, Francis présent au poste depuis tout à l'heure, je l'ai déjà dit, Frédéric, Dominique, Nathalie, Christian, ben voilà, tout le monde est là, donc on y va, Thomas, transition. Donc cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses aux États-Unis depuis l'émission de lundi qui vous a pas mal plu encore une fois. Mais je voudrais, on aurait pu parler de ce qui est en train de se passer en ce moment avec Biden qui est en Europe pour la COP26, qui apparemment, on va y revenir, va réussir à faire passer son plan du Build Back Better devant la Chambre des représentants et le Sénat. Donc il y a tout ça qui est en train de se passer. On aurait pu parler de Trump qui s'est retrouvé dans un match, pas en tant que joueur, mais en tant que spectateur, dans un match des finales de baseball, et qui a, rajoutant à la provocation, a fait un signe qui est considéré aujourd'hui comme étant plus ou moins raciste. Donc on aurait pu parler de tout ça, qui a raconté qu'on l'avait invité dans les tribunes pour aller voir ce match-là, alors que c'est lui en réalité qui avait demandé pour être visible. On pourrait parler aussi de l'élection extrêmement importante et apparemment extrêmement serrée qui arrive en Virginie pour le poste de gouverneur entre Youngkin, le candidat républicain soutenu par Trump, mais qui, selon où il se trouve en Virginie, c'est là toute la difficulté aujourd'hui d'être soutenu par un candidat comme Trump, c'est que le soutien de Trump vous assure le soutien de la base MAGA, mais est considéré comme un rejet répulsif pour les électeurs beaucoup plus centristes et indépendants. Donc la Virginie, cette espèce de territoire extrêmement étrange où, selon où Youngkin se trouve, il est pro-Trump, et selon s'il va dans une ville, par exemple, dans les campagnes, il est pro-Trump, et dans les villes, il ne l'est pas pour essayer de séduire cet électorat-là. On aurait pu parler de tout ça, mais je voulais vous parler d'un autre phénomène. Encore une fois, je vais aborder juste la surface visible de l'iceberg, qui est donc une intensification virulente du rejet de la présidence, donc du rejet de Biden. Pas par les Américains, pas par une majorité des Américains, même s'il est dans une position affaiblie dans les sondages, mais par la branche la plus extrême de la politique américaine, qui est la base pro-Trump, qui est extrêmement visible sur les réseaux sociaux, qui en plus a une discipline de messages qui est extrêmement forte, où lorsque un thème est lancé sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, il est repris par tout le monde, donc ça amplifie, ça se transforme, ce que je dis souvent, cette espèce de chambre d'écho avec Fox qui en rajoute une couche dessus. Donc d'un coup on a l'impression que toute l'Amérique est dans ce sentiment. On l'a vécu avec le mouvement anti-masque, le mouvement anti-vaccin, alors qu'en réalité il y a une majorité d'Américains. Aujourd'hui on est arrivé à un chiffre important pour les États-Unis où 70% des adultes américains est entièrement vacciné, 80% a au moins une première dose, mais si vous, aujourd'hui vous passez votre temps sur les réseaux sociaux ou sur ces chaînes-là comme Fox News, vous avez l'impression que c'est le contraire, que la majorité est anti-vaccin. Donc ça, c'est ce phénomène d'amplification parce qu'il y a une discipline extrêmement forte de ces groupes d'électeurs, de sympathisants qui sont extrêmement puissants. Et donc, cette semaine, ça s'est exercé sur un rejet violent, voire vulgaire, de Biden, et en même temps, une nouvelle étape dans le culte de la personnalité autour de Trump. Il y a eu ce match de baseball où il était présent, je vous en avais parlé plus tard, mais il y a aussi la multiplication d'œuvres d'art, on va appeler ça des œuvres d'art, de Trump en espèce de sauveur de l'Amérique, en super-héros. Donc là, vous le voyez en termes de fausse, vous le savez, mais je vais le repréciser, c'est une fausse couverture de Time Magazine. Donc vous l'avez là. Mais puis, il y a eu aussi ce tableau qui va vous rappeler forcément quelque chose. On aurait dû zoom dedans. Donc c'est Trump, encore une fois, en sauveur, merci Thomas, t'es parfait, en sauveur de l'Amérique qui vient libérer la Maison Blanche, chasser Biden qui est tout nu, parce que c'est l'empereur qui a perdu ses vêtements, j'en sais rien, c'est sûrement ça, avec Kamala à côté qui est tout nu, et c'est pas un faux, c'est extrêmement sérieux. Alors je sais pas, on va commencer par de la plaisanterie. Donc j'espère encore une fois que si vous nous suivez en mode audio sur les plateformes podcast, venez un petit peu sur YouTube parce que sincèrement vous ratez des choses en termes de vidéos et en termes de photos. Donc vous avez ce tableau là, et puis moi quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé quelque chose. Thomas, est-ce que tu l'as? Voilà. Non, il y a un lien, non? On est d'accord. Hein, c'est on est dans le Père Noël est une ordure. C'est pas Thérèse, mais on en est pas loin, non? Ça fonctionne. Mais bon, au-delà de la plaisanterie, je voudrais remercier aussi juste une seconde petite parenthèse. Merci, j'ai raté déjà deux autres super chats. Merci Frédéric pour votre généreuse contribution. Et merci Sylvie, pareil, c'est vraiment très très sympa, des habitués de la chute, très heureux de vous avoir ce soir, et merci encore. Donc, je vous disais, évidemment, lorsqu'on voit cette fausse couverture du Time, évidemment, lorsqu'on voit ce tableau et toutes ces autres illustrations, on aurait pu vous en choisir des dizaines qui existent. Le premier réflexe, c'est amusant, mais moi, honnêtement, je trouve que il y a deux dimensions qui sont effrayantes. La première, c'est que on est vraiment dans une construction du culte de la personnalité, comme on pourrait être dans une secte. Et c'est ce qui caractérise aujourd'hui le mouvement MAGA, qui réfute les faits, la vérité, pour la version donnée par son leader. C'est les mécanismes d'un phénomène sectaire. Et évidemment, tout ça, on le retrouve dans ce qui est le Big Lie, donc le rejet des résultats de l'élection de 2020, en prétendant que Trump a gagné largement et qu'il y a une fraude, alors que Trump a perdu et qu'il n'y avait pas de fraude. Donc on accepte cette vérité-là. Et du coup, on va le retrouver en 2024. Parce que le culte de la personnalité permet à Trump de dire en 2022, puis en 2024, « Vengez-moi. Vengez l'affront qui m'a été fait. Vengez l'Amérique. Vengez-vous. » Et ça va être le moteur principal de cette élection. Et c'est pour ça, je vous en parlais la semaine dernière, qu'on assiste à cet acte de révisionnisme en mode accéléré et en direct des événements du 6. La semaine dernière, je vous partageais un communiqué de presse de Trump qui expliquait que l'insurrection, elle ne datait pas du 6 janvier, mais du 3 novembre, du jour de l'élection, et que le 6, c'était un résultat de cette insurrection, que c'était une manifestation contre le vol de l'élection. Donc une réécriture complète. Et aujourd'hui, ça va plus loin. Je vais montrer une vidéo de Josh Mandel, qui est un candidat républicain pour le Sénat, qui a de fortes chances d'être élu, qui présentait une soirée pour l'intégrité de l'élection. Parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la force aujourd'hui des républicains, c'est de renommer, de recoder ces termes. Ça avait commencé en 2020, rappelez-vous, en 2016, rappelez-vous, avec, on ne parlait plus de mensonges, mais on parlait de alternate facts, de faits alternatifs, comme si la vérité pouvait avoir des faits alternatifs. Et aujourd'hui, au lieu de se dire, voilà, on est en train de vous vendre cette espèce de propagande de d'une élection truquée, on va vous dire, non, nous, ce qu'on fait, c'est pour l'intégrité de l'élection. Mais bon, petite parenthèse, je sais que ça fait plaisir à certains. Regardons Josh Mandel, et je vous en parle après.
We need to get rid of this January 6th commission and replace it with a November 3rd commission. This January 6th commission is a total sham and waste of time. If they want to focus on something, how about focus on the election cheating by the Democrats?
Merci Harry pour ta contribution super chat. Effectivement, Harry qui est un ami qui réside à Québec dit démagogue plus manipulateur du monde au Québec, Maxime Bernier, exactement, voit la manne plus fidélité aveugle de ce créneau et s'emprunte d'y prendre place. Effectivement, il y a une justification aujourd'hui qui est complètement mercantile et électoraliste de se dire, voilà, on va manipuler l'opinion, on le fait. J'ai aucun doute, soyons clairs, j'ai aucun doute que Josh Mandel, je vais y revenir, mais Trump lui-même a su, parce que je pense que maintenant il croit à son mensonge à 100%, mais a su que ce qu'il racontait était une invention. Le cynisme de cette situation, c'est aujourd'hui d'avoir des républicains qui, lorsqu'ils sont dans la confidence ou dans l'intimité, vont raconter que Biden a gagné l'élection, qu'il n'y a pas eu de fraude, mais publiquement, parce que cela leur permet de maintenir leur place et donc leur privilège, vont assumer les mensonges de Trump parce que aujourd'hui, ça leur permet d'être élus. Donc gardez ça en tête. Et gardez ça en tête, donc Josh Mandel, dont on vient de voir la vidéo, qui lui va encore plus loin dans cette espèce d'appropriation et de rejet du 6 janvier. En disant quoi ? En disant annulons la commission d'enquête sur le 6 janvier, parce que finalement, ce qui s'est passé est tout à fait normal. C'était une réaction à un vol. Et à la place, Mandel dit, enquêtons sur le vol de l'élection du 3 janvier. Ce qui est assez amusant, c'est que du 3 novembre. Ce qui est amusant, c'est que ce travail d'enquête a déjà été fait. Ce travail d'enquête, à plusieurs niveaux, je vous l'ai déjà expliqué, que ça soit au niveau du département de la justice, du FBI, que ça soit au niveau des États, a démontré, via les recomptes, etc., etc., a démontré qu'il n'y avait pas eu de fraude. Mais ça, on l'oublie. Donc, on est toujours sur cette volonté de dire, ne nous intéressons pas à ce qui s'est passé le 6, à la place, intéressons-nous à la fraude du 3 novembre. Donc, les républicains ont compris que la meilleure manière, et c'est terrible, que la meilleure manière de supprimer l'effet négatif du 6 janvier, de ces images que vous avez vues, qui pourraient être quelque chose d'extrêmement négatif lors d'une campagne électorale, la seule manière de faire ça, c'est se réapproprier l'événement, c'est ce qu'a fait Trump, ce qu'a fait Mandel, ou alors de le discréditer. Et je sais qu'en France, en ce moment, on parle énormément de la responsabilité d'une chaîne de télévision qui est CNews sur la montée de Zemmour. Je ne vais pas en parler plus, mais je vais vous parler de Fox News, qui aujourd'hui, on le sait, depuis longtemps, joue un rôle extrêmement actif dans cette période de révisionnisme. Non seulement en nous expliquant que c'était des touristes à l'intérieur, tout ce qu'on s'est dit lors de nombreuses émissions, mais aujourd'hui, et c'est extrêmement grave, Fox News a décidé de faire le jeu de Trump à 100% et d'aller plus loin en proposant, présenté par son présentateur vedette qui est Tucker Carlson, un dangereux suprémaciste blanc, a décidé de proposer à ses millions de spectateurs, de téléspectateurs, ce film dont Thomas va vous montrer un court extrait.
False flags have happened in this country. One of which may have been January 6th.
His truth is marching on.
Donc aujourd'hui, 1er novembre, Fox, via son service de streaming, Fox Nation, va proposer un documentaire présenté par sa star Tucker Carlson, qui non seulement revisite le 6 janvier pour expliquer que ce n'est pas une insurrection, mais pour aller plus loin, pour expliquer que le 6 janvier est un false flag, donc une fausse opération préparée par le FBI, pour, dans le cadre du fameux Deep State, pour faire tomber Trump et pour l'empêcher de revenir au pouvoir. Je ne sais pas si vous saisissez l'ampleur de ça. Imaginez si en France, vous aviez un média qui reprenait un événement majeur, dramatique, comme par exemple les tueries du Bataclan, et mettait son talent, son argent et son audience au service de la thèse que le Bataclan était en réalité une opération créée par les services français à des fins politiques. Imaginez la chose. C'est en train de ce que Fox News est en train de faire. Et c'est extrêmement grave. Parce que, même si c'est Fox News, même si on sait les réserves de cette chaîne, même si on a des réserves sur cette chaîne-là, pour le spectateur, il n'y a plus de différence. Lorsque c'est un média qui présente cette information, lorsqu'en plus elle est apportée par leur présentateur vedette, elle devient une forme de réalité. J'ai vu que Suzanne a posé une question donc merci Suzanne pour la contribution, merci Jean-François et désolé pour le changement d'heure, ça sera réglé à partir de la semaine prochaine. Donc Suzanne a posé une question qui va parfaitement dans ça. Elle demande, est-ce que les procédures légales concernant Trump et Bannon, est-ce que c'est toujours au point mort? Et donc justement, ce qui s'est passé aussi cette semaine, et c'est quand même des raisons de un petit peu positiver, c'est qu'il y a eu donc cette décision de de la Chambre des représentants de forcer Bannon à venir témoigner. C'est pas encore fait. Et il commence à avoir, hier, il y a eu un gros sujet dans le Washington Post. Donc, au niveau des médias et au niveau des politiques, des démocrates, et ici, lorsque je parle de démocrates, je ne parle pas forcément de membres du Parti démocrate. Mais je parle aujourd'hui des défenseurs de la démocratie aux États-Unis. Qu'ils soient membres du Parti démocrate, apolitiques, ou membres, il y en a peu, très peu, du Parti républicain. Et il y en a même de moins en moins, parce que cette semaine, on a encore appris qu'il y a eu 10 républicains qui ont voté pour l'impeachment de Trump suite au 6 janvier. Et il y en a encore un qui a dit qu'il ne se représenterait pas parce qu'il sait qu'il doit passer à travers une primaire et qu'il n'a aucune chance d'être réélu. On estime que sur les 10 républicains qui ont osé s'opposer à Trump en 2021, suite au 6 janvier, deux d'entre eux seront à nouveau candidats. Les autres seront soit battus, soit ils ont préféré prendre leur retraite politique. Donc c'est le prix de l'opposition à Trump. Mais comme je vous disais, donc, ces démocrates, dans le sens de la démocratie américaine, commencent à parler un petit peu plus de ce phénomène de suppression de l'électorat, suppression du vote. De subversion du vote. Pas d'empêcher les gens d'aller voter, ça c'est un sujet qui est d'actualité, qui est toujours d'actualité, mais d'une manière de se dire, ok, quels que soient les résultats, grâce à une opération de subversion du système électoral, on les inverse à notre faveur. Je vous expliquais ça dans une des émissions. Dans ce sens-là, les démocrates partent sur deux stratégies pour contrer cette subversion. La première, en ordre général, auquel je vous avoue, je crois assez peu, qui est le pari de Biden, qui est de dire, voilà, en réussissant à faire passer ses textes de loi la semaine prochaine, cette semaine, et en permettant à l'Amérique de redémarrer et en mettant en place une politique sociale et en relançant l'économie, il coupera l'herbe sous le pied à n'importe quel discours populiste et à l'électorat de Trump, c'est-à-dire que en améliorant les conditions de vie des Américains, les Américains continueront à faire confiance à son gouvernement et à travers lui, à sa vice-présidente, si elle est candidate en 2024. Donc ça, c'est le pari de Biden. Je pense que c'est une forme de naïveté, que la politique n'en est plus là, que cette logique-là aurait fonctionné il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais elle ne fonctionne plus aujourd'hui. On est dans un schéma d'opposition et de division extrêmement forte, et que en face, dans le camp d'en face, dans le camp des MAGA, des QAnon, on a décidé non seulement de ne pas jouer avec les règles, mais en plus de les changer. Donc, heureusement, sur certains points, les démocrates ont compris ça. Le comité du 6 janvier, par exemple, dans ses recommandations, la rumeur, parce que pour l'instant, on n'est que dans le sens de la rumeur, c'est qu'ils vont proposer qu'on revienne sur cette fameuse loi du Electoral Count Act de 1887 pour la redéfinir. Parce que ce qui s'est passé en 2020 et début de l'année 2021 a démontré les faiblesses de la loi électorale américaine et entre autres sur le rôle du vice-président et sur le rôle du Congrès pour rejeter les grands électeurs. Donc, parmi les recommandations que va mettre en avant la commission d'enquête sur le 6 janvier, c'est de revenir sur cette loi-là pour établir clairement, par exemple, que le vice-président est juste là pour présider une cérémonie, qu'il ne peut pas revenir sur les grands électeurs. Ce qui était le cœur de la stratégie de Trump, de contraindre de Trump et du mémo Eastman dont je vous ai parlé pour contraindre Pence à changer le résultat électoral. Donc c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on joue une partie d'échec et que les républicains ont 10 coups d'avance. Les démocrates sont à la rue. Je vous le dis franchement, les démocrates sont à la rue. On est en train de se focaliser sur ce point-là parce qu'il a été mis en avant ces derniers temps par les médias, par des révélations, des documents, donc la publication de ce mémo Eastman. Mais c'est déjà plus là que l'élection de 2024 va se jouer. En 2020, je vous l'ai dit 10 fois, 100 fois, Trump a identifié, pas une, pas deux, pas 10, mais toutes les faiblesses du système électoral américain. Et sa stratégie est simple, c'est de les exploiter. Donc là, les démocrates pensent à aller boucher une fuite. Mais le bateau de la démocratie américaine est percé en 10 endroits. Et par contre, les républicains, ces 10 endroits-là, ils ont été identifiés et ils sont en train d'agir. La semaine dernière, à Las Vegas, il y a eu une convention QAnon qui a duré 2 jours avec les leaders du mouvement, qu'ils soient élus, penseurs, blogueurs, youtubeurs, qui sont venus expliquer ce qu'ils comptaient faire pour aider Trump à reprendre le pouvoir. Parce que c'est ça ce qui est fou. C'est que le plan des républicains pour reprendre le pouvoir, même en cas de défaite électorale, n'est pas un secret. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans l'ombre. C'est quelque chose qui est fait ouvertement. Pire, il est complètement revendiqué. Je vais vous montrer encore une vidéo prise, filmée lors de cette conférence QAnon, lorsque le candidat QAnon, Parti républicain, MAGA, au poste de Secretary of State dans le Nevada, l'État où nous vivons, donc dans le Nevada, qui est un État extrêmement important pour 2024. Donc, il est sur scène et il va expliquer la stratégie. Vidéo Thomas.
Jody Heiss is also a patriot. He is currently a member of Congress and a member, more importantly, of the House Freedom Caucus. Who knows what the House Freedom Caucus is? The most awesome patriots we have in Congress today. And he's one of them. He was also asked to step up. A lot of people think, oh, he's stepping down from Congress. Stepping up. So he's leaving his seat in Congress, and he's going to run for Secretary of State of Georgia, where we need a conservative like him very badly. Arizona. Who's heard of Mark Finchem? He's part of our coalition down there. You're going to see him in a few minutes. One of the stalwarts down there has been leading the charge in Arizona to fight this election fraud that happened everywhere. Rachel Ham from California. I got another one I'm trying to talk into running from Colorado. I'm not going to say his name, but if we get him in, it's going to be awesome.
Alors, c'est un extrait du témoignage de Jim Marchant, donc qui est le candidat QAnon, MAGA, Parti républicain, pro-Trump, appelez-le comme vous voulez, au poste de Secretary of State, et qui explique, comme si rien n'était, que il y a quelques mois, l'entourage de Trump, des personnalités du mouvement QAnon, se sont réunis en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de gagner en 2024? Et la clé de l'élection en 2024, il le dit ouvertement, c'est de remporter les élections de Secretary of State dans tous les États clés. Il les cite un par un dans sa vidéo. Le Secretary of State, c'est la personne qui est responsable non seulement de l'organisation du scrutin, je vous l'ai déjà dit, mais aussi de la certification du vote des grands électeurs. Donc c'est lui qui va certifier les résultats d'une élection. Et donc aujourd'hui, c'est assumé pleinement, et ça va se passer dès l'année prochaine. Trump a décidé de placer des hommes clés, des hommes à lui, des QAnon, des personnes qui sont prêtes à valider le Big Lie, dans le poste le plus sensible du système électoral américain. Et est en place de gagner. Un des exemples les plus troublants dans l'intervention de que vous venez de voir, je pense pas que c'était dans cet extrait-là, mais dans un autre, il y avait beaucoup, il a fallu choisir, c'est qu'il raconte, par exemple, qu'en Ohio, je pense, il y avait un élu républicain extrêmement populaire, un élu du Congrès, qui devait se représenter pour le Congrès et être réélu, parce qu'il était dans un territoire découpé républicain. Et comme il est extrêmement populaire, le mouvement QAnon et toutes ces personnalités dont je vous ai parlé de proches de Trump étaient allés le voir en disant « Non, tu vas pas te représenter au Congrès où on est certain que tu vas être réélu, mais tu vas te présenter à un poste qui est moins prestigieux, mais qui est plus important, qui est celui du Secretary of State. Parce que ta popularité va nous assurer que tu gagnes l'élection. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parmi les 50 candidats que Trump a décidé de soutenir, la majorité sont pour des postes de Secretary of State ou des postes de gouverneur, lorsque dans certains États, c'est le gouverneur qui doit valider les élections. Trump a fait pour que cette année, et pour que les élections de 2022, que l'enjeu principal, ce n'est pas forcément une majorité, même si ça risque d'être le cas au Sénat ou dans la Chambre des représentants, mais de s'assurer que dans les 5, 6, 7 États dont il a besoin pour gagner en 2024, les personnes qui vont valider les résultats sont des proches, sont des gens surtout capables de faire ce qu'il va leur demander de faire. Et ça, c'est pour ça que je vous disais que je trouvais que les démocrates étaient complètement à la rue. Ça, aujourd'hui, les démocrates n'ont pas de réponse. Donc c'est bien de proposer que on revienne sur les lois, sur le Electoral Count Act de 1887 et le rôle du vice-président. Mais encore une fois, les démocrates ont 10 coups de retard. Oui, d'ailleurs, Cody, pendant la transition, m'a passé les résultats du sondage et je vois qu'on est en territoire conquis, que vous aussi, vous partagez mon pessimisme et à 100% que les démocrates ne se montrent pas à hauteur du péril. J'ai peur qu'ils réagissent trop tard. Je vous le dis, j'ai peur qu'ils réagissent trop tard. Je le vois au niveau local, au niveau du Nevada. La machine... Je ne dis pas qu'ils vont gagner les élections, mais la machine du Parti républicain est lancée à 100%, à pleine vitesse, avec des moyens considérables, et avec, animé par ce sentiment de vengeance dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque vous discutez aujourd'hui avec des électeurs MAGA, on vous parle de vol, comme si il y a un outrage au sein des électeurs. Et donc, ces gens-là vont aller voter en masse. Et pour l'instant, effectivement, la réponse du Parti démocrate est complètement complètement trop faible. Elle existe quasiment pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je voyais passer une remarque de Jean-François. Merci Jean-François pour ta deuxième contribution, je crois, aujourd'hui. C'est très apprécié. Il n'y a pas besoin, mais c'est très apprécié. Donc Jean-François qui disait qu'il venait de voir que Manchin, effectivement, bloquait encore une fois à la veille de l'élection, en blocage dernière minute, le plan de Biden. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Toute la stratégie des démocrates aujourd'hui, c'est le passage du Build Back Better de Biden en disant voilà, les Américains vont vivre mieux, donc ils vont s'éloigner naturellement de Trump. Et même ça, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le passer. Et oui, on a ce sentiment, Jean-François parle de frustration face à des démocrates qui se sabordent eux-mêmes. Oui, évidemment que c'est le cas. Et évidemment que lorsque on entend des démocrates aujourd'hui avoir des discussions sur quel genre mettre sur un passeport et que face à eux, il y a une machine qui est en train de broyer tout ça, de monter des Américains contre eux et de préparer dans les institutions américaines comment prendre le pouvoir, on se dit oui. Il y a une naïveté, il faut pas avoir peur des mots, il y a une naïveté du Parti démocrate. Et un gros risque, la stratégie choisie, assumée par Biden, elle peut tourner à la catastrophe. Avant de parler du livre, parce qu'on est à la deuxième partie de l'émission, il y a une question auquel je vais absolument répondre, qui est celle de Corinne Aubrière, qui demande mais quelle réponse les démocrates auraient-ils pour stopper le plan de Trump? Déjà, nous sommes en novembre 2021. Le 6 janvier s'est déroulé il y a bientôt un an. Et rien. Il y a une commission d'enquête. Mais l'émotion du 6 janvier est passée. Alors que, même si je suis partisan de enquête, la procédure judiciaire, etc., etc., il aurait fallu marteler ce qui s'est déroulé, un coup d'État, beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, il faudrait que les démocrates soient beaucoup plus présents, beaucoup plus actif à le dénoncer, y compris à convoquer Trump. On le sait. On sait que Trump a joué un rôle actif. Allez voir l'émission de la semaine dernière, de lundi dernier, où je vous raconte ce qui s'est passé le 5 janvier, où je vous donne des preuves du complot. Et pourtant, on sait que Trump n'est pas convoqué. Pire, il n'est pas inquiété. Donc pour répondre à votre question, pour stopper le plan Trump, il faut s'en prendre à Trump lui-même. Et c'est ce que aucun démocrate ne fait. Petite parenthèse. J'ai vu que Maître Olas était là, donc il fallait que je fasse une parenthèse. Donc voilà, petite parenthèse. Bon, je suis un peu énervé, hein. Peut-être trop d'ailleurs. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme, mais... Ça me bouleverse de voir tout ce qui est en train de se passer. Et sincèrement, je ne suis pas comme ça que parce que c'est la chute et il y a une émission, etc. C'est une discussion que j'ai en famille avec Thomas, avec Cody, avec mon épouse, de dire voilà, je suis très pessimiste sur ce qui va se passer aux États-Unis en 2024. Je suis très pessimiste. J'espère me tromper. J'espère me tromper de tout cœur, je vous le dis. J'espère. Bon. Allez, on passe à autre chose. Stephanie Grisham. Donc Stephanie Grisham a été la responsable de communication des un rôle très particulier de Trump, des Trump, de Melania et de Donald lui-même pendant 4 ans. Le titre est un petit jeu de mots parce que c'est une responsable de la communication qui a refusé jusqu'au bout à faire des conférences de presse. Donc c'était une responsable de la communication qui ne communiquait pas trop. Et donc il y a quelque temps, il y a un mois à peu près, elle a sorti ce livre-là qui a été annoncé avec beaucoup de publicité et beaucoup de crainte parce qu'on s'est dit voilà, c'est quelqu'un qui a été dans l'entourage des Trump pendant 4 ans, qui a vu tellement de choses. Et d'ailleurs, c'est un livre qui soi-disant faisait trembler du côté des Trump, qui lui a en fait offert une magnifique publicité. Vous savez, vous êtes sûrement au courant de ce qu'on appelle le Barbara Streisand effect, où lorsque on veut dénoncer quelque chose, finalement on fait de la publicité. Et Trump a fait de la publicité pour ce livre parce que il a publié un communiqué de presse en expliquant que Stephanie Grisham était une perdante, était nulle, etc., etc., comme il fait à chaque fois. Ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un le critique, il s'attaque. C'est d'ailleurs raconté plusieurs fois sur d'autres personnalités comme Bolton dans le livre. Il s'attaque aux capacités intellectuelles ou physiques, on le verra, de cette personne en expliquant qu'elle est d'une nullité absolue et qu'elle a toujours été nulle, etc. Mais bon, en fait, il a engagé. Pire, il a gardé avec lui pendant 4 ans. Mais donc Trump a fait une publicité comme il le fait souvent. C'est plus fort que lui. Grisham raconte plusieurs fois où simplement la réponse était de dire « ne répondons pas » et Trump ne peut pas laisser passer ça. Il ne supporte pas lorsqu'il est attaqué personnellement, surtout sur ses capacités intellectuelles ou physiques, il faut qu'il réponde et donc il a fait une publicité pour un livre qui, je ne vous le cache pas, est très moyen, très 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 moyen. J'ai eu du mal à le lire, j'ai eu du mal à le finir. C'est pas un livre très passionnant. Il y a des enseignements, on va en parler, mais c'est un livre beaucoup trop long. Pourtant j'ai lu plus. Bon, il y a à peu près 300 pages. Il y a eu des livres beaucoup plus gros, mais beaucoup plus passionnants. Sur ces 300 pages, il y en a peut-être une centaine où elle se met en avant. C'est quelqu'un qui n'assume pas ou assume peu ses erreurs. D'ailleurs, à la fin du livre, elle le dit. Il y a chaque fois une excuse. Ce qu'elle raconte n'est pas forcément extrêmement intéressant. Sur les périodes les plus rapides, les plus intéressantes qui sont à partir de novembre, vu qu'elle a vécu ça de l'intérieur, à partir du 3 novembre jusqu'au 6 janvier, elle a démissionné après le 6 janvier. Ça doit faire 10 pages dans le livre, donc c'est très très pauvre. Bon, si bien sûr vous êtes intéressé sur le fonctionnement de cette machine de la communication, de la First Lady, puis après de Trump, bon, vous allez peut-être trouver de bonheur, mais sincèrement, ce n'est pas un livre que je vous recommande, mais on n'est pas là pour faire de la critique littéraire, mais je voulais quand même vous le dire, et être honnête, mais je suis là pour vous parler des quelques points qui sont assez intéressants. Parce qu'il y en a quelques-uns qui non seulement sont intéressants, parce qu'ils permettent de comprendre ce qui s'est passé, mais de mieux saisir le personnage. Trump n'est ni un homme d'affaires, ni un président, ni un politique. Trump est un producteur de reality show. Il faut garder ça en tête. Sa présidence pendant 4 ans, sa campagne avant, ce qui est un petit peu normal, mais pendant 4 ans, sa présidence a été gérée comme une émission de réalité télé. Et donc forcément, dans un chaos le plus complet, parce qu'on peut être un bon ou un très bon, je ne préjuge pas des qualités de Trump lorsqu'il faisait The Apprentice, mais ces qualités-là ne sont pas suffisantes pour gérer un pays. Donc ce qu'on retient du livre de Stephanie Grisham, d'abord, c'est cette espèce de chaos et cette volonté de tout mettre en scène. De tout mettre en scène. Et d'ailleurs, une volonté complètement reconnue par Trump, c'est que lorsqu'il engage du monde dans son entourage, la première question Ce n'est pas de savoir si cette personne a un potentiel intellectuel pour lui permettre de résoudre un problème, mais c'est de savoir comment cette personne va passer à la télévision. Et Trump, souvent, lorsqu'il recrute lui-même des gens pour travailler pour lui à la Maison-Blanche, ce qui au cours des années va devenir de plus en plus difficile parce qu'il y a le chaos, parce que Trump est ingérable, il fait ce qu'il veut, il vire les gens via Twitter, etc. Donc il a du monde, il a des difficultés à recruter du monde. Lorsqu'il va recruter du monde, la première chose qu'il dit à ces personnes-là, c'est « Je vais te faire de toi une star de la télé ». C'est un réflexe de producteur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans les relations entre Trump et Lindsey Graham. Stephanie Grisham en parle un tout petit peu, où elle explique que Lindsey Graham, Trump a besoin d'alliés politiques, et ce que Trump va lui vendre, c'est de se dire, ok, si tu viens dans mon camp, je vais te faire de toi une star. Tu vas être invité à Fox News, tu vas avoir droit aux dons politiques de ma base, la base aussi. On le savait, Grisham le confirme, Trump ne gouverne que par et pour sa base. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et c'est pour ça que le pays est autant divisé aujourd'hui. Contrairement aux autres présidents, Trump, je vais vous le dire honnêtement, Trump, en 2016, avait une opportunité unique dans l'histoire politique américaine. Unique. Il a été élu, et c'est pour ça que certains démocrates ou certains électeurs d'Obama en 2016, ces électeurs-là ont voté pour Trump. C'est que Trump avait une opportunité unique qui était de dire, voilà, je vais faire la politique différemment. Je ne vais pas être ce président démocrate, mais républicain, mais un président qui va aller dans le sens commun et dans le bien des Américains. Trump est arrivé à la Maison-Blanche avec cette opportunité-là. Mais c'est quelque chose qui ne l'a pas intéressé. Donc il est passé cette opportunité très rapidement. Il a laissé passer pour aller vers les gens qu'il aime sans réserve. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on découvre dans ce livre-là. C'est comment Trump, on s'en doutait, a besoin en permanence d'être aimé, d'être flatté. C'est pour ça qu'il demande aussi une espèce de fidélité sans nom et sans réserve aux gens qui travaillent avec lui, parce que il a besoin qu'on lui dise qu'il est le plus intelligent, qu'il est le meilleur en permanence. Et quand les gens, il y a une histoire assez amusante, quand les gens ne lui disent pas, c'est lui-même qui va dicter des communiqués de presse à Stephanie Grisham qui vont mettre en avant ses capacités intellectuelles. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. Le président lui-même va demander à sa responsable de la communication d'écrire en son nom des communiqués de presse où elle flatte l'intellect de Trump. Mais c'est Trump qui lui a dicté ce message-là. Et c'est quelque chose qui a toujours été présent dans sa carrière. Et c'est ce qui explique aussi comment la famille Trump en général, et Trump lui en particulier, Donald Trump en particulier, a du mal avec la presse américaine. Ils n'ont pas compris que, en rentrant dans la politique, la relation avec les médias a changé. Pendant des années, quand Trump était simplement une personnalité politique, on écrivait des communiqués de presse pour se mettre en avant et on les envoyait aux médias tabloïdes habituels qu'il publiait sans réserve. Lorsqu'ils arrivent à la Maison-Blanche, il veut faire exactement la même chose. Et il comprend pas qu'on le critique, et il ne comprend pas qu'il y a des enquêtes, et il ne comprend pas que les médias revendiquent une indépendance, alors que pendant des années, ses seuls rapports avec les médias, c'était ça. C'était « je vous donne une info, l'info est publiée ». Et donc, ça c'est quelque chose que raconte Stephanie Grisham très, très très bien. Et dans cet esprit de Trump qui souhaite être flatté, il y a une histoire qui m'a assez intéressé, c'est pas celle dont on a parlé le plus, c'est que on s'en doute, Trump, au quotidien, est ingérable. Il est ingérable. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, qui n'est absolument pas intéressé par les dossiers, absolument pas intéressé par la complexité de la situation, dans des moments complètement fous d'ailleurs, lors de sommets avec des personnalités ou des présidents d'autres pays, où le sommet est là, par exemple, pour parler de l'environnement, de la crise climatique, et Trump arrive en disant « Non, c'est gonflant, je vais pas en parler, parlons d'autre chose ». On le voit lorsqu'il rencontre, par exemple, Boris Johnson, et finalement, les deux hommes, alors qu'ils doivent parler de sujets beaucoup plus importants, vont se mettre à discuter de la force des kangourous. À se dire, ok, qui c'est qui va survivre face à un combat de kangourou? Parce que ça, ça l'intéresse. Mais le reste ne l'intéresse pas. Donc, il a toujours cette impossibilité à se concentrer, toujours sur son téléphone, en train de tweeter. Mais il y a un moment où Trump, et c'est le seul moment que raconte Stephanie Grisham, où Trump livre 100% de son attention, c'est lorsqu'ils sont à Camp David, qui est la Maison Blanche à la campagne, si vous voulez, à une heure de Washington. Et à Camp David, il y a une salle de cinéma. Et il y a un film qui fascine Trump. Ce film, c'est étonnant, c'est Sunset Boulevard. Un film de Billy Wilder, de 1953, qui raconte la déchéance d'une star du cinéma muet. C'est un film que je vous recommande. Vraiment. On l'a revu hier pour préparer l'émission. Et le personnage, la personnage principale de ce film, c'est Norma Desmond. Cette star du muet qui continue à vivre dans l'illusion de son monde. Il y a une scène, c'est un spoiler, désolé, il y a une scène complètement folle où on apprend, par exemple, tous les jours, sa seule activité, c'est d'envoyer des photos dédicacées et de répondre à du courrier de fans qui la regrettent et continuent de l'aimer. Jusqu'au moment où on découvre que tous ces documents-là, toutes ces lettres, ces photos dédicacées qu'elle envoie, en fait, c'est son majordome qui fait ça pour elle, pour continuer à lui faire croire qu'elle est appréciée. Et Trump adore ce film. Et c'est impossible de regarder ce film-là, et c'est ce que raconte Stephanie Grisham, elle est choquée de se dire, voilà, Trump adore ce film-là, alors que, ou peut-être parce que, le personnage joué par Gloria Sanson, donc Norma Desmond, en fait, c'est lui. Trump est cette espèce de personnage prisonnier de son image et qui a besoin en permanence qu'on lui répète qu'il est idolâtré et il est aimé. Et toute sa politique d'aller vers sa base et de ne pas tenter d'unifier l'Amérique, c'est ça. Il fait de la politique uniquement vers les personnes qu'il aime sans condition. Je vous parlais tout à l'heure en introduction de cette émission de culte de la personnalité. On est exactement dans ça. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé un des rares aspects du livre parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que j'étais pas très client du livre, mais sur cet aspect-là, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et donc, tenez, parlons deux secondes de ces rencontres avec les différents présidents et le voyage en Angleterre avec la reine tout de suite après une petite transition pour que je puisse un petit peu boire. Je vois que le chat est assez vivant entre les kangourous et Monsieur Jean-François qui va se faire taper sur les doigts après. Non, non, c'est très amusant. Je prends ça avec beaucoup d'humour. Il n'y a aucun problème, Jean-François. Je plaisante. Donc, je vous ai raconté Trump avec Boris Johnson qui se mettent à parler de kangourous et de la force des kangourous. Mais il y a des tas d'autres exemples comme ça. On apprend par exemple Macron. Tiens, parlons de Macron, du président français. Je sais que publiquement Trump, sauf quand il a été critiqué, parce que lorsqu'il est critiqué, il répond toujours violemment, mais il a essayé de mettre en avant Macron et son amitié avec, etc., etc. Et en public, ce que nous raconte Grisham du moins, c'est que Macron était sujet de moquerie de Trump en permanence. Il le considérait comme étant une espèce de mauviette, c'est son mot, d'un wuss, donc d'une mauviette complète, qui était chétif et qui essayer de le, comment dire ça, de l'impressionner par des coups de colère et en disant voilà, ça me fait tellement rire. Donc beau choix de photo, Cody, parce que effectivement on est complètement dans ça. Il y a un autre aspect qui est plus intéressant, et on tombe encore sur la psychologie du personnage. C'est un aspect qu'on aurait pu appeler Trump et les dictateurs. C'est la fascination que Trump a pour des Poutine, des Erdogan en Turquie, ou pour la Corée du Nord. Et Grisham en parle assez ouvertement, en donnant des exemples très précis, en disant, voilà, plus que de la fascination, c'est que Trump a besoin de se faire accepter par ces hommes forts. Je sais, on en a beaucoup parlé pendant la campagne du livre de la cousine Trump, qui expliquait comment Trump avait eu une relation extrêmement difficile avec son père, et on n'en est pas loin, donc des personnalités extrêmement fortes, et Trump a besoin de se faire aimer par eux. Et l'épisode Poutine est complètement fou, parce que Vladimir Poutine le sait, et va en user. Et donc, par exemple, avant un congrès, avant le sommet, avant le sommet à Helsinki, les photos que vous voyez là, Trump va voir Poutine et lui dit « Bon, là, je vais être un petit peu dur avec toi, mais t'inquiète pas, hein, c'est que devant les caméras. Après, on va s'arranger derrière en coulisses. C'est pour les journalistes. » Donc, il essaye de créer cette espèce de connivence et Poutine va en jouer. Il est extrêmement bien informé sur Trump. Donc, par exemple, et c'est confirmé par Grisham, et c'est confirmé par l'histoire de Trump, Trump est extrêmement sensible à un certain type de beauté, ou de sex appeal, si vous voulez. Et donc, lorsqu'il va se retrouver en tête-à-tête avec Poutine, Trump va congédier sa propre interprète pour laisser en place uniquement l'interprète fournie par Poutine. Une interprète qui est une jeune fille, beauté extrême d'après Grisham, qui a un gros décolleté, on va dire ça comme ça, et Trump est complètement persuadé et complètement perturbé. Il essaye de plaisanter avec elle, il la drague, il sait plus que faire, parce que, en permanence, son regard, au lieu d'aller sur Poutine, va sur le décolleté de l'interprète mise là pour Poutine. Mais ça, c'est fait exprès, c'est pour que Poutine ait une position de force. Autre chose, lors du repas, Poutine se retrouve à proximité de Trump. Ils sont à côté. Et Trump, comme sa femme d'ailleurs, sont connus et réputés comme germanophobes. Ils ne supportent pas les microbes. Pour lui, un des actes les plus difficiles de la campagne a été l'obligation de serrer des mains. Il est malade sur l'idée de tomber malade. Et donc, pendant tout le repas, Poutine ne va pas arrêter de tousser et de se racler la gorge. À côté de Trump, au-dessus de sa nourriture. Oui, germophobe, excusez-moi, merci. À côté de sa nourriture. De telle sorte que Trump va perdre tous ses moyens parce que pendant une heure et demie, il va se retrouver à un mètre de quelqu'un qui prétend être malade. Donc voilà, donc ça, c'est Trump avec Poutine. Après, tout à l'heure, je vous parlais du côté mise en scène, producteur, etc. Le sentiment à la sortie de ce livre-là, c'est que le moment le plus important de la présidence Trump, c'est son voyage officiel en Grande-Bretagne et la réception par la reine d'Angleterre. Trump considère que sa famille est l'équivalent de the royals, l'équivalent de la famille royale britannique. C'est le pendant américain. Et donc, ce voyage va devenir l'enjeu de toutes les jalousies au sein même de la famille Trump. Et c'est là qu'on découvre l'ampleur de l'ambition de Ivanka et de Jared, son mari, qui ont, pendant 4 ans de présidence, non seulement utilisé la machine de la Maison-Blanche américaine en termes de communication pour faire fructifier leur image en s'imposant, je vais vous donner 2 exemples, dans des événements où ils ne sont absolument pas prévus, mais aussi pour solidifier leur réseau pour devenir encore plus riche. Donc c'est par exemple, Jared va monter des relations d'entreprise de plusieurs milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite en utilisant sa fonction à la Maison Blanche. C'est Ivanka qui va obtenir enfin que ses produits soient copyrightés, donc protégés en Chine, une fois que son père va devenir président. Mais c'est aussi, par exemple, des incidents quasi protocolaires qui sont évités à la dernière minute. Le voyage en Angleterre, par exemple, Ivanka, la photo que vous voyez là, par exemple, Ivanka voulait apparaître sur ce cliché-là. Et c'est Buckingham Palace qui a été obligé au dernier moment de dire non, ce n'est pas possible. Parce que on se rend compte que non seulement Trump cède en permanence aux caprices, entre guillemets, d'Ivanka, ça marchera par exemple lorsqu'ils vont aller au Vatican, ils sont reçus par le pape, ce n'est pas prévu que Ivanka et Jared soient là, mais ils seront là. Mais surtout, Trump a cette vision d'une dynastie des Trump qui va au-delà de lui. Dans ce cadre-là, ce n'est pas Tiffany, une de ses filles, ce n'est pas les 2 autres fils, Don Jr. et Eric, c'est Ivanka. Donc il y a vraiment, véritablement une volonté de créer cette dynastie politique. Et Un autre point intéressant, c'est que Grisham a passé beaucoup de temps avec Melania Trump, et que donc on voit qu'il y a une rivalité extrêmement forte entre Melania et Ivanka, que le couple Jared Ivanka est surnommé les stagiaires, parce que dès qu'il y a un problème, que ça soit Covid, que ça soit la paix au Moyen-Orient, le mur, il se transforme en spécialiste de la chose et demande à être mis à la tête de commission. Et en plus de ça, le surnom le plus méchant utilisé pour Melania lorsqu'elle parle d'Ivanka, c'est la princesse. Parce qu'il y a ce côté-là, avec elle se déplace avec un entourage extrêmement, extrêmement important. Elle demande d'être traitée avec les meilleures conditions possibles. Et tout ça, évidemment, ce qui est choquant tout au long de ce livre-là, même si c'est accidentellement, parce que il n'y a pas de recul là-dessus de la part de Stephanie Grisham, c'est que ces 4 ans de vie, de voyages internationaux, de soirées, de représentations, tout ça a été fait sur le dos du contribuable américain. Et jusqu'au bout d'ailleurs, où lorsque, entre les élections et le 6 janvier, la priorité de Melania, par exemple, va être de créer des albums photos qui documentent toutes ces 4 années de réception et de voyage officiel. Et tout ça, ça va être encore fait. Elle va engager le photographe de la Maison Blanche en overtime, donc en temps supplémentaire, qui va être payé par le contribuable. Donc ça c'était un aspect que j'ai trouvé intéressant. Maintenant, je voudrais vous parler, après une petite pause, de Stormy Daniels et de Melania. Alors j'ai vu que pendant que je vous parlais, il y a eu plusieurs super chats. Merci encore une fois. Donc Yoko Tsuno, Flore, si je me rappelle bien, hein, Flore, c'est ton prénom. Donc merci pour ton super chat. Il y a eu David qui est passé là comme d'habitude. Merci, c'est très apprécié. Ça permet, par exemple, je vous l'ai déjà expliqué, et puis j'ai déjà commandé d'autres livres, un sur QAnon, un sur le 6 janvier. Ça permet de payer pour ces livres-là, qu'ils soient bien ou pas bien. Ah ben tiens, voyez, transition parfaite. Là, l'arrière du livre, c'est ce fameux manteau utilisé par Melania, qui disait voilà, j'en ai rien à faire. Et vous, le jour où elle est allée à la frontière pour se rendre compte des conditions de détention des enfants de familles séparées. C'est par exemple une des frustrations de livre. L'épisode est raconté, mais on en sort sans savoir si c'était un accident de communication, ce qui me paraît assez fou, parce que c'est des gens qui sont en contrôle complet. Sans savoir si c'était volontaire, Il y a une hypothèse que je trouve assez intéressante, et ça va être parfait pour parler de Stormy Daniels, c'est qu'on se rend compte que la communication entre Melania et Donald Trump, en termes de couple, c'est à peu près l'équivalent de zéro. Ils vivent chacun de leur côté. Elle vit dans ce qu'on appelle la East Wing, donc la partie est, l'aile est de la Maison Blanche. Lui, à l'ouest, elle a ses propres appartements. Il a ses propres appartements. Elle refuse de s'impliquer dans toute cette vie politique. Elle est dans sa tour. Son surnom officieux, comment s'appelle le comte aidez-moi dans le chat, cette personnalité en fait, cette fille qui a les cheveux longs, qui est enfermée dans sa tour, etc. Bon, donc elle a cet aspect-là où elle s'isole complètement des activités. Et on se rend compte que très, très, très souvent, en fait, ils communiquent par tweet. Ça paraît assez fou de dire ça comme ça. Ils communiquent par tweet qui se répondent l'un à l'autre. Donc, gardez en tête, oui, réponse, exactement. Merci Cyril. Gardez en mémoire cette image-là parce que je vais vous raconter donc l'histoire de Stormy Daniels. Lorsque les révélations de l'adultère de Trump deviennent une forme de réalité, lorsqu'on découvre par exemple que il a payé le silence de Stormy Daniels, etc., on se rend compte que le premier réflexe de Trump, comme d'habitude, parce qu'il a été accusé de nombreuses affaires de harcèlement sexuel ou d'adultère, c'est d'attaquer le physique de la personne en disant « Mais attendez, mais jamais je vais coucher avec quelqu'un comme ça, vous avez vu, elle a une tête de cheval. » Donc il voulait que ça soit, et il va voir Stephanie Grisham et il dit « Voilà, il faut que ça soit le message qu'on martèle, c'est que elle est pas à mon niveau, regardez, elle a une tête de cheval. » Bon, finalement, ils ont réussi à le convaincre que c'était pas la meilleure manière de parler de tout ça. D'ailleurs, on remarqua, c'est une petite ligne de Grisham qui dit que à chaque fois que Trump est accusé d'adultère ou d'harcèlement sexuel, il va dénigrer l'accusatrice, mais jamais il va avoir un mot pour sa femme. Jamais il va dire « mais c'est terrible de faire ces accusations » par rapport à Melania. Chaque fois elle est à l'attaque, c'est le seul mode qu'il connaît. Et donc, Stephanie Grisham nous raconte comment ces accusations sont vécues par Melania, qui vit ça extrêmement mal. C'est une humiliation pour elle. Son mari, alors qu'elle était enceinte, a payé donc une actrice de film porno pour avoir des relations avec elle et puis ensuite pour qu'elle n'en parle pas. Et donc elle va y répondre à sa manière, c'est-à-dire un, en refusant, y compris dans des événements publics, à s'afficher avec lui. Donc elle refuse de participer à des cérémonies, entre autres la cérémonie autour du 11 septembre. Elle refuse de le faire et elle va tweeter à son tour. Elle va pas tweeter directement une réponse, mais elle va tweeter une photo. Donc la photo en là, c'est une photo d'elle avec un jeune beau militaire. Donc c'est sa manière de dire « Ok, tu m'as trompé, mais regarde, moi aussi, si je le veux, je peux le faire. » Donc du coup, ce que demande Stephanie Grisham lorsqu'on revient à cette histoire de veste, si le message de « j'en ai rien à faire » ne s'adressait pas, en fait, à Trump, si elle ne lui envoyait pas un message comme ça. Dans Stormy Daniels, évidemment, on va en parler, parce que le livre s'est vendu sur ça. Il y a ce coup de téléphone complètement fou de Trump qui est dans Air Force One, à bord de Air Force One, et qui appelle Stephanie Grisham, pas parce que c'est Stephanie Grisham, mais c'est parce que il sait que ce qu'il va dire à Stephanie Grisham sera répété à Melania. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication directe. Tout passe par des tweets ou par l'intermédiaire de Grisham. Et donc, il appelle Grisham pour dire « Écoutez, c'est n'importe quoi. » À ce moment-là, Stormy Daniels a révélé la taille et la forme du pénis de Trump, qu'elle considère, vous avez lu, que non seulement sa taille est assez limitée et le tout ressemble à un champignon, et donc Trump, on le sait, est extrêmement sensible à tout ce qui remet en cause son physique et son intellectuel, c'est le côté « je suis ce génie stable », c'est le côté « je n'ai pas de petites mains ». Donc il appelle Grisham et il va justifier de la taille de son sexe. Il va expliquer que ce n'est pas vrai, qu'il a tout ce qu'il faut là, et que c'est encore un mensonge de Stormy Daniels. Et donc, à ce moment assez fou, où le président des États-Unis va parler de son anatomie à sa responsable de communication, et il est à deux doigts de lui demander de trouver la formule pour un communiqué de presse qui aurait confirmé que Trump était bien membré. Ouais. Ça s'est pas passé, mais ça aurait été un moment historique. Et d'ailleurs, Grisham nous raconte deux ou trois exemples de communiqués qui ont été retenus à la dernière minute, parce que vu que Trump n'a pas la capacité de concentration, il l'oublie. Donc, il fait dicter un texte complètement fou. Et donc, la stratégie, c'était un petit peu d'attendre et d'oublier pour qu'il passe autre chose. Mais on est passé proche d'avoir ce communiqué de presse, de ce communiqué de presse. Maintenant, je voudrais parler, pour terminer sur ce livre, vous parler de Melania un petit peu. Vous connaissez tous les images de Melania. J'en ai encore passé une sur Twitter. Je pense que Thomas Lass, il peut la jouer, de cette vidéo lors de ce fameux match des Braves à Atlanta. Donc, on a plusieurs fois de ces séances où elle roule les yeux, où elle refuse de lui prendre la main, où là comme vous voyez, elle fait un visage assez dégoûté à côté de lui. Ce qui est intéressant, c'est que dans Grisham, on découvre que Melania sait que les caméras sont sur elle en permanence, et que rien n'est accidentel chez elle. Elle est en contrôle en permanence de sa communication, et que donc, elle sait que ces moments-là vont être capturés et vont avoir une vie virale sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cette dimension-là. Et du coup, très souvent, lorsqu'ils arrivent sur les médias sociaux, ils sont accompagnés d'un espèce de mouvement presque de sympathie pour le personnage, avec le hashtag Free Melania, par exemple. Et c'est vrai que, par moment, on a ce sentiment d'une personne qui subit, plus qu'elle ne le veut, l'ambition politique de Trump. Je pense que c'est aussi une réalité, qui est sincère dans certaines de ses causes, comme par exemple, ce qui est assez ironique, c'est que c'est quelqu'un qui ne semble réagir que sur le sort des enfants. Son rôle à la Maison-Blanche, elle définit ça, donc c'est d'aller protéger les enfants, etc. Et en même temps, elle soutient les politiques, la politique de son mari de séparation des familles à la frontière. Donc, il y a une certaine ambiguïté de se dire, ok, on va visiter un hôpital en Italie et je vais aller voir des enfants malades et apporter mon soutien. Mais en même temps, je suis un outil politique. On l'a vu, elle a participé à la convention de 2016 et puis à la convention pour les élections de 2020. Donc, elle est un outil politique de Trump, qui l'utilise que pour ça, d'ailleurs. Et donc, on a ce sentiment, en général, d'une Melania prisonnière, suspecte, etc. Moi, j'y crois pas, ça. J'y crois pas. Et je vais vous revenir sur les deux points importants qui, d'après moi, et je vais conclure là-dessus sur le livre, qui sont le cœur de qui est Melania. C'est sur ce qui se passe, même si c'est très rapidement évoqué, c'est sur ce qui se passe le 3 novembre et le 6 janvier. Donc le 3 novembre, pour la petite histoire, pendant la soirée électorale, Melania est introuvable, elle n'est pas là. Et on découvre qu'elle est allée se coucher. Elle est tellement peu intéressée par ce qui se passe qu'elle dort. Elle dort, tout simplement. Et donc, ils vont la réveiller à 2h du matin pour qu'elle apparaisse à côté de Trump lorsqu'il va faire son discours politique. Mais c'est pas ça ce que je voulais vous raconter. Ce qui perturbe le plus Grisham, qui voue une admiration sincère pour Melania, c'est que en coulisses, lorsqu'on lui parle du fameux Big Lie, alors que tout le monde à la Maison-Blanche sait que cette histoire de fraude électorale est un mensonge, Melania est à 100% derrière Trump. Elle est persuadée que l'élection leur a été volée et qu'il faut faire tout pour y revenir. Et donc c'est pour ça que samedi, elle était au match avec Trump. Et c'est pour ça qu'elle va participer à sa campagne. Parce que comme lui, elle est persuadée qu'on leur a enlevé, qu'on leur a volé ce pouvoir-là. Donc l'histoire de Melania victime, on oublie. Et le pire moment pour moi du livre, et c'est soi-disant aussi ce qui a déclenché la démission de Stephanie Grisham le 6 janvier. Donc, le 6 janvier, le Capitole est attaqué par les supporters de Trump. Les images sont à la télévision. La foule est là. On entend ces chants où on veut pendre Trump, on veut prendre Pence, on veut pendre plusieurs élus démocrates, dont Pelosi. Et Grisham contacte par texto, parce que c'est comme ça que le mode de communication se passe, écrit à Melania en lui disant « Est-ce que vous souhaitez que l'on publie un tweet pour appeler au calme ?» Et la réponse de Melania, c'est un mot, c'est non. Donc je sais que toutes ces images que l'on voit de Melania en train de rouler les yeux, etc., la place en position de victime, mais sur les deux points les plus importants d'attaque de la démocratie américaine, qui est le mensonge électoral et les événements du 6 janvier, Melania est à 100% derrière son mari. J'ai vu passer en latin tout à l'heure la référence à l'élection du pape pour vérifier, c'était une coutume pour vérifier si... ouais, je crois que c'était au niveau de... c'était encore Maître Eolas, c'est ça. Hein, au niveau de... On vérifiait que le pape était bien un homme, de voir si c'était bien là et c'était bien pendant. Donc bien de voir qu'on fait des références en latin. Duas habet... et bene pendentes. Oui, on en était là. Donc c'était la chute pour aujourd'hui. Je vous avais promis que je vous parlais de ce livre, donc j'ai essayé de vous tirer au maximum ce qui était assez intéressant. Mais gardez surtout en tête la première partie de l'émission sur ce qui est en train de se passer, parce qu'on va forcément y revenir. Donc encore une fois, vous remercier de votre présence. Vous avez été très nombreux à nous suivre, de ces échanges dans le chat. Moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est lorsque d'un œil, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la communauté. C'est exactement ce que disait Thierry. C'est que je dis des choses et plein de gens rebondissent sur d'autres. Donc effectivement, de voir cette communauté qui est présente et qui en plus vit d'elle-même, et de voir que je suis juste déclencheur de discussions, de réflexions et d'échanges, et que vous commencez tous à vous connaître entre vous. Et vraiment, je trouve que c'est formidable. Je voudrais aussi vous remercier parce que vous avez été très 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 nombreux à nous aider à contribuer à la chute via Super Chat. Donc je veux pas, Thomas, est-ce que tu peux me rafficher les noms? Je voudrais oublier personne. Encore une fois, merci. Merci Jean-François, deux fois, merci Ghislaine, merci Flore, aka Yokotsuno, merci Suzanne, merci Thierry, merci Alexandra, merci Sylvie, merci Frédéric, merci Harry, merci David, vos contributions sont vraiment très appréciées par tout le monde, je vous le dis, un jour je leur demanderai de, Je demanderai à Thomas et Cody de venir à l'antenne pour vous remercier. On fera ça une dernière fois, une fois c'est certain. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne. On a besoin de vous. C'est pas encore fait. Cliquez sur la clochette, sur la sonnette. Les likes, c'est formidable. Et puis notre page Utip. Donc voilà. Donc normalement, touchons du bois. On se retrouve vendredi pour la chute. Pour l'instant, je n'ai pas de rendez-vous professionnel qui m'a empêché d'être là la semaine dernière. Et puis, donc voilà, continuez à vous informer. Comme je vous l'ai dit la semaine prochaine, la semaine dernière, voilà, lapsus, comme je vous ai dit la semaine dernière, tout ce qu'on fait là, tout ce qui se dit, tout ce travail qui est fait en amont, tous nos échanges, toutes vos discussions dans le chat, c'est parce que ce que nous venons de vivre aux États-Unis pendant 4 ans et que nous continuons à vivre avec les périls de 2022 et 2024, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre au Canada, au Québec et en France et en Europe. Donc, utilisez ces leçons d'histoire pour être vigilant sur ce qui se passe chez vous. Merci, c'était La Chute.